Bonjour à tous et à toutes. Alors on est un peu en retard, on va essayer de rattraper le retard. Depuis maintenant 2 jours, on a eu des communications de qualité avec des approches différentes. Il n'empêche qu'il y a un constat sans appel, c'est que les discriminations raciales et le racisme existent à l'école et à l'université. L'école et l'université ne sont pas un rempart contre le racisme et les discriminations raciales. Donc il était assez naturel de s'interroger dans cette matinée consacrée aux politiques publiques, aux solutions, aux initiatives apportées par les pouvoirs publics, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle plutôt locale, institutionnelle. Vous allez le constater, nous n'avons pas de représentants ou de représentantes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de l'Éducation nationale. On les avait invités, il y a des chargés de mission, il y a une chargée de mission racisme à l'Éducation nationale et un chargé de mission racisme à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. Malheureusement, il y a un malheureux concours de circonstances qui a fait que ces personnes n'ont pas pu se libérer et participer à cette table ronde. Donc on va plutôt aujourd'hui, avec nos intervenants et intervenantes, s'intéresser à la question locale des initiatives, des actions mises en place. Je vais dans un premier temps, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Fabrice, en introduction.
Oui, peut-être juste un élément pour faire le lien avec la conférence qu'on a eue tout à l'heure de Mary McEnroe. C'est qu'il faut qu'on puisse tenir compte aussi des contraintes, je sais que c'est un élément de discussion, c'est-à-dire des contraintes des cadres nationaux dans lesquels on est et où évidemment les stratégies qui ont été ne sont pas les mêmes. Néanmoins, ce qui me paraît important, c'est qu'on a vu avec le Canada que la stratégie de politique publique qui s'appuie sur l'histoire au fond de cette problématique des rapports sociaux au Canada a fait l'objet d'une reconnaissance. Et quand on dit, ce que disait Mary McEnroe, c'est quand on dit diversité, équité et inclusion, ce serait une nouvelle étape dans un processus de reconnaissance. En France, on est peut-être dans la tentation, on est clairement dans la tentation de passer par la case diversité et inclusion, sans passer par la case reconnaissance politique du problème, sans prendre en compte le changement de paradigme que ça implique, et donc sans donner priorité à l'action sur les obstacles institutionnels, sur les changements de normes que cela nécessite, pour mettre fin aux effets préjudiciables sur certains groupes du point de vue des groupes minoritaires. Voilà. Ça me paraît important de se le rappeler, c'est-à-dire un des éléments qu'il va falloir qu'on discute aussi, c'est les liens entre l'action publique, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir faire, avec quel est l'ordre du problème.
Merci. On va peut-être... Est-ce qu'on m'entend là ? On va peut-être démarrer avec nos intervenantes. Je vais vous demander dans un premier temps, on va faire plusieurs tours de table, dans un premier temps de vous présenter peut-être l'institution que vous représentez, les actions initiées, peut-être faire un lien avec le contexte national. Est-ce que ça s'inscrit dans une démarche d'un de vos ministères de co-tutelle ? Je vais laisser donc la parole à ma voisine.
Bonjour, donc je suis Laurence Sucropina. Je suis prof de français au départ, mais actuellement déchargée de cours. Je coordonne la mission lutte contre les discriminations à l'école de l'Académie de Nancy-Metz. Donc on revient en contexte français. Et alors on est un territoire qui a connu, enfin qui a une situation un petit peu particulière parce que en fait il y a eu un élan dans la région Lorraine dans les années 2006, un élan régional qui impliquait différents acteurs dont l'Académie de Nancy-Metz sur un projet Equal qui visait à travailler les questions de discrimination pour les jeunes issus de l'immigration. De la formation initiale à l'emploi. Et alors, du coup, l'Académie s'est portée volontaire et j'ai fait partie, avec ma voisine, des personnes volontaires qui souhaitaient s'inscrire dans cette démarche, notamment dans une formation par Fabrice Dume de 7 jours. Voilà, donc on a eu ce projet qui a impulsé un élan qui a été pérennisé, en fait. Donc l'Académie s'est positionnée dans un élan qui était multipartenarial, mais également qui visait à travailler la question des stages, hein, donc qui, d'une certaine mesure, externalisait un petit peu le problème, puisqu'on s'attachait à observer les situations de discrimination dans cette interface entre l'école et l'entreprise. Et donc il y a eu également un diagnostic qui a été réalisé par Fabrice Dume et Nadia Sanier Adawi sur la question des discriminations à l'accès aux stages pour les jeunes issus de l'immigration. Et ce diagnostic a été validé par le recteur de l'époque, ce qui lui a conféré une certaine reconnaissance institutionnelle, même si locale. Et puis, ça a donné lieu à une communication lors d'un colloque académique où il y a eu un certain nombre de cadres de l'académie qui étaient présents. Et évidemment, ce diagnostic a permis de voir que, certes, il y a des situations de discrimination dans les entreprises pour les jeunes qui sont en recherche de stage, mais qu'il y avait des phénomènes de coproduction, en fait, des acteurs qui, soit banalisés, étaient en difficulté, ne savaient pas trop traiter les situations, et coproduisaient les discriminations. Alors, par exemple, en faisant du tri en amont, en ne donnant pas certaines adresses à certains élèves parce qu'ils jugeaient qu'ils allaient être discriminés sur la recherche de stage. Voilà, donc ça a été très finement analysé, ça a été validé, puis ça a donné lieu ensuite donc, à cette mission lutte contre les discriminations qui existe depuis lors, qui s'est étendue à toute discrimination à l'école, donc à tout moment de la vie à l'école, et pas seulement pour l'accès au stage. Et donc, je coordonne cette mission et il y a un groupe de personnes ressources, dont Saba, qui va se présenter et qui a une originalité, une force, c'est qu'en fait, ce sont des personnes de statuts fort différents. Donc, il y a des chefs d'établissement, des chefs de travaux, c'est-à-dire des DFPT maintenant, CPE, professeurs, il y a une inspectrice de l'orientation qui est présente également. Et ce groupe se réunit 4 à 5 fois dans l'année pour travailler les situations qui sont repérées à l'échelle de chaque fonction. Et puis, ces personnes ont une lettre de mission du recteur ou de la rectrice qui est en poste. Donc, vous voyez, il y a une sorte de reconnaissance institutionnelle par ce biais-là. Bon, j'en reparlerai un petit peu après. Qui permet également d'avoir du matériau, c'est-à-dire qu'il y a énormément de situations du coup qui sont remontées, connues, sur lesquelles on essaye de communiquer, alors parfois par une lettre académique qui est destinée à tous les cadres de l'académie et qui du coup évoque ces situations qui sont rencontrées par les professionnels. Voilà, donc on est bien sûr, une fois qu'on s'est dit qu'il y avait de la discrimination, qu'est-ce qu'on peut faire quand en tant que professionnel on y est confronté?
Je vais compléter un peu le propos. Donc, moi, j'ai effectivement adhéré à ce groupe en 2005 en tant que professeur de lycée professionnel en lettres histoire. Et j'ai été approchée parce que dans mes classes, je menais une action, un projet sur 10 clips contre le racisme. Donc à ce sujet-là, donc on m'a proposé d'intégrer ce groupe, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que je me retrouvais confrontée sur le terrain à ce type de problématique, des situations autour de la problématique du racisme et de la discrimination, je me trouvais un peu démunie pour agir. Donc rejoindre un groupe pluricatégoriel pour échanger sur les pratiques, sur ces questions et pour essayer de trouver des solutions sur le terrain, m'a semblé vraiment très riche et m'a beaucoup apporté. Donc les questions, justement, parce que travailler ces questions permet, à mon sens, puisque ensuite j'ai évolué vers un poste de direction et là j'ai pris toute la mesure de ce qui pouvait être fait à l'échelle d'établissement pour justement travailler ces questions, et je l'aborderai tout à l'heure dans les propositions et les perspectives d'action, notamment d'apaiser le climat scolaire dans la classe et hors la classe, de réguler les situations face à des problématiques de ce type-là. Et surtout, nous travaillons, notre outil principal, c'est la loi, faire respecter la loi. Ce qui, effectivement, est essentiel pour nos élèves dans le cadre de la formation du citoyen, mais également pour les, et surtout aussi pour les personnels qui les encadrent, qui doivent eux aussi respecter la loi. Voilà.
Donc, je passe me... Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Fabienne Ferreron. Je travaille actuellement dans un mouvement d'éducation populaire que sont les éclaireuses et éclaireurs de France. Mais je suis ici pour vous parler du stage que j'ai fait dans le cadre de mon Master 2 Égalité, Inégalité, Discrimination à Lyon. Un stage que j'ai effectué à l'Institut français d'éducation et dans lequel je suis intervenue dans un collège, où la chef d'établissement donc de ce collège, avait conservé les dossiers d'une cohorte d'élèves de leur entrée en 6e à leur sortie en 3e. et elle souhaitait que ces archives servent pour permettre une analyse qui permettrait de faire reconnaître et qui légitimerait la question des discriminations auprès de ces enseignants. Donc une analyse qui a porté à la fois sur l'évolution des résultats scolaires des élèves, sur les appréciations dans les bulletins scolaires, mais aussi sur leur orientation après la troisième.
Petit point de suspension à ce stade-là, avant qu'on revienne sur d'autres éléments. Ça montre d'ores et déjà qu'il y a des histoires très différentes. En tout cas, ça nous laisse supposer, même si on n'est pas autour de la table forcément avec des points de vue comparatifs selon les académies ou selon les universités engagées, on a des histoires qui sont très différentes et qui sont à des échelles qu'il faudra discuter, hein, plus ou moins locales, etc. Vous dire par la même occasion qu'on avait souhaité aussi, enfin qu'on avait invité d'autres référents racisme, antisémitisme, d'autres universités qui avaient justement aussi d'autres histoires, ce qui aurait permis de mettre en perspective des stratégies, discuter des stratégies éventuellement différentes, notamment celui de l'université d'Orléans, qui n'est plus en poste au moment où on l'a contacté, et Pascal Tisserand de l'université de Lorraine, qui devait être là, et ça aurait été intéressant, parce qu'en université de Lorraine, ils ont mené une enquête sur le vécu des discriminations, avec l'idée que c'est bien l'établissement de cette connaissance-là qui va aussi permettre à l'action publique de pouvoir se structurer. Voilà. Et j'entends aussi dans ce que disait Laurent Sucre-Pina que c'est un des motifs, c'est-à-dire c'est comment la remontée d'informations sur la matérialité et la réalité du problème permet d'alimenter l'action publique. Il faudra peut-être qu'on revienne sur ces éléments-là.
On va peut-être, vous avez chacune abordé de manière très sommaire les initiatives prises. On va peut-être y revenir, donner un peu plus d'informations. Je pense notamment à vous, Saba. Vous avez évoqué des actions mises en place dans votre établissement. Je pense aussi Fabienne, vous avez parlé d'une étude. Je pense qu'on est tous et toutes intéressés par les résultats de cette étude. On va peut-être refaire une deuxième tournée.
Je vais peut-être recommencer. Donc, au niveau des actions, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que quand j'étais enseignante, au sein du groupe de lutte contre les discriminations, on échangeait donc sur des pratiques, ce qui a mis en lumière, par exemple, sur ce qu'a évoqué Laurence au niveau du gros travail qu'on a fait sur l'accès aux stages, aux PFMP, les périodes de formation minoprofessionnelles, qui sont inhérentes à la formation des élèves en lycée professionnel, qui constituent en plus, qui sont désormais des compétences qui doivent être validées par les professionnels, ce qui implique vraiment un lien avec les tuteurs en entreprise, qui doit être fait avec des compétences négociées. Donc ce travail, c'était une entrée qui a mis en lumière effectivement des situations de discrimination et comment les travailler. Donc effectivement, la première des choses, c'est aussi de travailler avec les enseignants, puisqu'on a relevé différents processus qui pratiquent, en tout cas d'enseignants, de façon indirecte, parfois directe, indirect entraîner la discrimination, notamment dans plusieurs, au niveau des entreprises. On a des entreprises qui refusaient parfois ouvertement des élèves en stage en raison de leur origine, parfois très indirectement. Des professeurs qui, par des pratiques, j'allais dire, pour ne pas mettre à mal l'élève, placer des élèves dans les entreprises où ils étaient sûrs d'être pris, en finalement participant, en coproduisant la discrimination. Et au niveau des élèves qui ne se rendaient pas dans certaines entreprises parce qu'ils étaient sûrs qu'ils n'étaient pas pris. Donc ça, c'était justement, la première des choses, c'était d'ouvrir la parole. Ouvrir la parole sur ces questions, créer des espaces et des moments avec les enseignants, avec les élèves, pour pouvoir rendre visible un peu tout ce qui était finalement dans la pratique quotidienne. Il faut savoir, et tout, je pense que ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, notamment dans les lycées professionnels, le savent, le placement des élèves en entreprise est très difficile. Pour qu'on trouve des entreprises qui nous prennent nos gamins de lycée professionnel qui sont déjà avec un bagage fragile et qui les accompagnent, on a déjà beaucoup de difficultés à trouver des places. Donc parfois c'est du placement, voilà, sans chercher parfois à négocier. Donc on se retrouve aussi dans cette situation où si on trouve une place à un élève en stage, on est bien content. Donc par rapport à ça, et par rapport aussi à la temporalité, on n'a pas beaucoup de temps pour trouver des moments pour en discuter. C'était l'un des premiers objectifs de s'accorder des moments pour négocier, par exemple avec les tuteurs sur les compétences, ou quand ils refusaient un élève, de revenir vers le tuteur pour expliquer, pour essayer qu'il formalise, qu'il qualifie les choses. Pourquoi je ne le veux pas? Bon, ben, de toute façon, avec les gens-là, de toute façon, ils sont jamais... Voilà, on a ce genre de réponse-là, en essayant de déconstruire tout ça, et finalement, de lever la peur, la peur, c'est le maître mot, hein, pour effectivement créer du lien et créer de la confiance et permettre à cet élève de faire le stage dans cette entreprise et finalement que le tuteur s'aperçoive que voilà, ça se passe très bien et qu'on y va. Donc l'action était finalement essentiellement à ce niveau-là. Travailler avec les entreprises, avec les tuteurs, travailler avec l'élève pour qu'il ouvre la parole, parce que parfois l'élève ne dit rien. Moi, j'ai une expérience assez vive quand j'étais enseignante, où j'ai visité un élève en stage dans un garage, et à ce moment-là, l'élève s'appelle Yacine. Et donc, le tuteur l'appelait Jasmin. Je lui ai dit, pourquoi vous l'appelez Jasmin? Ça fait plus français. Et devant l'élève... Donc là, j'étais un peu en retrait. Ensuite, de toute façon, c'est pas mal pour un élève comme ça, du genre de qualificatif très négatif. Donc j'ai repris avec le tuteur en entreprise l'impact de ces mots, sur ce qu'il renvoyait à l'élève. Et finalement, on a échangé, puis dire qu'il rigolait. Bon, voilà, c'est toujours aussi sur le ton de la plaisanterie. Donc ça, on n'est pas là pour pointer du doigt, pour dire que c'est pas bien, mais pour ouvrir la parole, pour essayer de créer du lien, et pour permettre aussi à nos partenaires, qui sont les entreprises, d'accueillir nos élèves. Donc voilà les actions qui sont concrètes au niveau de... En tout cas, je m'arrêterai là pour ma même expérience d'enseignante, puis il y a beaucoup d'autres expériences. Hein. Mais en tout cas, faire évoluer les pratiques nous permet de faire évoluer les mentalités, parce que si les mentalités ne changent pas, on reste quand même dans des situations... difficile. Alors, je vais évoquer peut-être mon expérience en tant que personnel de direction. Est-ce que j'ai un...
Oui.
Alors, en tant que personnel de direction, les actions sont... on a quand même mener des actions plus larges. Au niveau structurel. Qui impactent finalement le pilotage pédagogique d'un établissement et qui permettent d'agir sur certains leviers qui vont finalement faire évoluer les pratiques. Donc, il faudrait, j'entends par pilotage, un type de management qui va ouvrir des stratégies qui permettent de lutter contre les discriminations. Alors, j'ai quelques exemples concrets. Par exemple, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on le retrouve. Normalement, c'est inscrit dans la loi. On doit avoir des classes qui sont pas des classes de niveau, pas des classes ethnicisées, mais on se rend compte par le jeu des options. Dans certains établissements, on retrouve ces classes. On retrouve ces classes où, effectivement, on a des élèves qui sont les meilleurs. Donc, il y a une corrélation entre les bons élèves et l'origine sociale. Et bon, ça, vous savez tout ça. Donc, finalement, le personnel de direction, il est garant de cette mixité, entre guillemets, qui permet justement d'éviter cette discrimination par, le niveau scolaire, mais indirectement par... l'origine ethnique. Alors il y a aussi, on peut agir sur les emplois du temps parce qu'il y a aussi un impact fort des emplois du temps, dans la construction des emplois du temps qui a un impact pédagogique qui nous permet aussi de créer des temps de discussion avec les élèves, de créer aussi des temps de dialogue avec les professeurs parce que un professeur, il doit s'imprégner effectivement de son établissement, ne pas rentrer et puis sortir, essayer d'avoir aussi un regard sur ses propres pratiques. Et il faut lui donner la possibilité de les regarder, le temps de voir l'impact de ses paroles, de ce qu'il fait, puisque c'est aussi l'enseignant qui est en contact direct avec les élèves. Et là, je fais le lien avec l'orientation. L'orientation, c'est un énorme chantier. De nombre dans des conseils de classe, on entend des choses qui sont vraiment de l'ordre. Et si on ne régule pas et qu'on a une parole qui permet justement d'identifier les choses, de qualifier les choses, moi j'entends les conseils de classe, j'entends le conseil pédagogique qui est vraiment un lieu important au niveau des EPLE, des établissements scolaires, pour justement travailler ces questions. Bon, effectivement, les PFMP, alors toute la procédure est à revoir. Donc, mettre du structurel, de la procédure pour permettre de pouvoir identifier les différentes étapes. Et là, c'est le rôle également du chef d'établissement qui en mettant un cadre, peut aussi intervenir s'il constate effectivement des éléments qui l'interrogent. Et une dernière chose, et là j'étais intervenue aussi dans un établissement dans lequel j'étais principale adjointe avant ce poste dans un lycée, c'était au niveau de l'organisation de la sortie des voyages. Donc un exemple probant, on organisait des voyages en fonction des profils d'élèves, c'est-à-dire que les latinistes, ils sortaient, et qu'on mettait de côté tous les élèves qui avaient été sanctionnés, qui avaient un comportement qui n'était pas terrible. Et puis les classes, effectivement, quand on avait des classes avec des latinistes et d'autres classes, il n'y avait pas de latinistes, donc on comprenait un peu la différence. Et donc il y a tout un travail qui a été fait sur une charte, une action concrète, sur une charte d'organisation des sorties et des voyages pour permettre de mettre finalement, de traiter les élèves de la même façon, en dehors de leur choix d'option, parce que ça crée effectivement une pratique profondément discriminatoire. Et là, ce qui est étonnant, c'est que, étonnant et en même temps révélateur, c'est que les enseignants et même les parents ne voient pas le problème. Pour eux, ils font du latin, ils font une option en plus, ils méritent de sortir, ils méritent d'aller, de faire un voyage. Donc c'est aussi cette... Donc là, il y a tout un questionnement, et les conseils pédagogiques et les différentes réunions nous permettent aussi d'échanger. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour et je vais peut-être laisser la parole. Voilà.
Du coup, je rebondis. En fait, dans ce que Saba a évoqué, ben, vous voyez qu'il y a d'une part la connaissance de la loi, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les professionnels de l'éducation nationale sur la question de la discrimination, de connaître les processus de discrimination et des compétences notamment de négociation. C'est-à-dire que face à une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, qui a des demandes alors implicites ou explicites discriminatoires, il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc l'idée, c'est fort de ces constats-là et ces diagnostics-là, de diffuser dans la formation initiale ou continue toutes ces connaissances et ces compétences à développer, alors soit auprès des enseignants, mais enfin tous les corps finalement professionnels de l'éducation nationale. Alors c'est pas un espace qui est figé, c'est un espace qui évolue d'année en année. À certains moments, la formation initiale s'en saisit particulièrement, d'autres moments, le programme académique de formation, et puis ça change en fait. Donc en fait, d'année en année, ce sont des négociations qui sont liées aussi à des changements qu'il y a dans l'institution. Et donc l'idée, c'est, on a un temps assez court, mais contrairement au Québec, la formation est en général assez courte. Donc j'entendais la direction de l'ESPE là qui disait tout le monde nous dit que c'est trop court, mais bon voilà, c'est court sur toutes les thématiques, et y compris sur la discrimination. Mais donc le travail qu'on mène, alors c'est un travail de sensibilisation auprès des élèves et des professionnels sur ces questions-là pour les aider à repérer les situations qui seraient discriminatoires ou pas. C'est-à-dire que quand les élèves, moi je ramène des situations, vu qu'on en a beaucoup maintenant, tiens, en conseil de classe, tel élève, on dit que comme sa famille ne parle pas bien le français, etc., et qu'elle a des résultats un peu moyens, non, la première S, c'est pas terrible, donc il vaut mieux pas. Alors que l'élève juste avant, dont les parents sont enseignants, bah, lui, ça va mieux fonctionner, du coup, ok, on lui laisse une chance. Alors voilà, on pose cette situation-là, les élèves, est-ce que vous pensez que c'est discriminatoire? Et moi, je travaille avec des jeux de rôle, et du coup, si on sait que c'est discriminatoire, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'une fois qu'on l'a diagnostiqué, il faut en faire quelque chose. Et donc là, c'est un travail avec les élèves, mais aussi avec les professionnels, quand je ramène des situations de discrimination. C'est « Ok, vous avez vu que c'est discriminatoire, alors comment vous faites et qu'est-ce qui vous empêche d'agir ?» Et donc, on mime un conseil de classe où un élève entend ça, et il est délégué, et comment il peut prendre la parole? Alors, les enseignants, enfin les professionnels comme les élèves, il y a en général deux attitudes. C'est « Je suis très énervé et je suis agressif, voire insolent », ou alors je fuis la situation. Et donc on essaye de construire avec eux et elles une autre attitude qui serait de nommer les choses, d'argumenter. Et c'est assez magique de voir, je trouve, des élèves, par exemple en seconde lycée pro, où il y avait pour tous les entrants en fait, de lycée professionnel, un temps de formation, enfin un temps de sensibilisation sur ces questions. Et si jamais vous rencontrez une discrimination à l'accès au stage, vous faites comment? Voir le passage d'un élève au début qui part dans l'insulte, qui dit « je me casse », etc. Et puis à la fin de la séance où, sans que je le sollicite, il vient, il argumente et puis il nomme les choses. Voilà, je trouve que c'est assez opérationnel. Et bon, après, Après, évidemment, ce n'est pas une baguette magique et ça ne résout pas tout. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de construire une compétence, y compris pour les enseignants et y compris quand les professionnels sont témoins de situations, alors que ce soit de propos dans la salle des profs, où il y a des choses, parce qu'on a vu ça beaucoup, et notamment après les attentats de 2015, où des enseignants, des enseignantes disaient, notamment une, moi je vais demander ma mutation, parce que c'est intenable dans la salle des professeurs, des choses qui se disent, et il n'y a pas de... En fait, la parole dominante, c'était une parole qui était raciste. Voilà, l'idée, c'est vraiment de construire une autre manière de pouvoir agir que la fuite ou l'agressivité, où les gens se sentent démunis. Alors, pour dire que ça peut fonctionner, je me souviens d'une enseignante qui ramenait une situation de discrimination à l'accès au stage. Pour les jeunes d'origine maghrébine et noire, en fait, un patron avait décidé de ne plus prendre ces élèves-là. Et on a construit collectivement une réponse. Et elle m'a appelée ensuite pour me dire qu'elle était très contente. Elle était allée voir ce patron. Elle avait, avec lui, écouté quels étaient, d'où il sortait cette nouvelle posture. Elle avait aussi rappelé la loi en disant que le tri qu'il faisait n'était pas possible au niveau légal. Hein. Comme le disait Saba, on travaille avec ça. En fait, ça a donné une posture complètement stabilisée qui a permis au patron, à la fin, de dire « bon, bah, ok ». En fait, je veux bien, on recommence le partenariat. Donc ça, c'est très important parce que l'institution, elle a très peur, comme le disait Fabrice, que ça explose quand on parle de discrimination. Je me souviens d'un témoignage dans une académie où le proviseur vie scolaire m'a dit « Ah bon, vous travaillez ça et ça n'explose pas ». C'était avant les attentats. Hein. Donc il y a cette métaphore-là de quelque chose tout à coup qui va déborder, échapper et puis être destructeur. Nous, on a plein de situations d'établissement et de postures professionnelles qui montrent que non, au contraire. Et là, bon, là, c'est un exemple où, au contraire, même ça recrée un lieu de stage avec cette pression que les enseignants ont de perdre des lieux de stage. Donc, c'est ce point de vue-là qu'on amène, qu'à outiller professionnellement les personnes, eh bien, on arrive à traiter. Et puis, ben, du coup, ça a des effets évidemment positifs en termes de croyance en la justice scolaire, en la loi. Ce que je disais, alors là, je suis un peu en désaccord avec... ce que tu disais, Fabrice, sur la peur qu'en parlant de ça, les élèves ne croient plus à l'école. Moi, ce que je vois, en fait, dans les séances avec les élèves et les adultes, c'est qu'au contraire. Mais c'est incroyable, comme même dans une classe qui, au départ, ne s'écoute pas, ils ont une sorte de... Ils ont l'impression que la loi ne tient à aucun moment, y compris à l'école. Et quand ils peuvent exprimer ce qu'ils vivent, y compris avec l'aspect émotionnel, ça remobilise les gens, ça donne de l'énergie, et c'est vrai pour les professionnels. Donc, bon, moi, je trouve ça très intéressant. Là, vous voyez que je suis dans les choses très positives. Je dirais des choses qui sont plus difficiles après. Alors, en partant sur ces questions-là, par exemple, les ZEN avec la DGESCO, donc l'École supérieure de l'éducation nationale et le ministère, ont mis en place un séminaire de formation d'une journée pour les inspectrices et inspecteurs et chefs d'établissement sur ces questions avec 4 ateliers qu'on a animés, les personnes ressources et moi, en travaillant d'eux-mêmes des situations et avec l'idée d'outiller les personnes pour faire face à des situations pour lesquelles ils étaient démunis. Donc c'est une entrée qui fonctionne bien. Bon, je finis rapidement en disant que du coup, ce groupe-là, l'expérience qu'on a, ça permet de donner une certaine visibilité. Dans le projet académique, qui est un document officiel, il y a une fiche action sur les discriminations. Quand j'ai le temps d'écrire une lettre académique, on rend compte et c'est envoyé au cadre, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est bien. Et on a un outil, par exemple, qui est un argumentaire. Comment, quand face à une entreprise qui est discriminatoire, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux dire les choses? Et donc ça, c'est un outil qui est à disposition. Et puis, dans les actions aussi, on a eu besoin de s'organiser. Donc il y a un réseau national lutte contre la discrimination qui est basé à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, qui est un organisme, un opérateur qui est partenaire de l'éducation nationale et qui produit beaucoup de ressources pédagogiques et d'études. Et donc ce réseau, c'est un réseau qui est formé d'acteurs et d'actrices de l'éducation nationale, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a une liste de diffusion ouverte à toutes les personnes qui sont intéressées à cette question. Alors, qui permet de la diffusion de ressources, qui permet un peu, mais comme il y a 150 personnes qui ne se connaissent pas, c'est compliqué de discuter des situations, mais il y a eu quand même quelques cas où une chef d'établissement disait « ben voilà, j'ai une demande de parents qui me semble pas correcte, etc., comment je fais ?» Donc on a pu un petit peu en discuter. Et ça donne un espace aussi de visibilité, de légitimité dans l'institution de cette question-là. Donc c'est vraiment précieux que ça existe. Et puis je crois que je vais m'arrêter là.
Moi, j'aurais juste un frein à rajouter que j'ai omis de dire et qui me semble important. sur le terrain, c'est, et ça, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me heurte, c'est d'être assez souvent renvoyé à mes origines quand je traite de ces questions. Et ça, c'est quelque chose qui, à 41 ans, je dis mon âge, me heurte. Et donc ça, je voulais le dire. Ça, c'est un frein et je pense que beaucoup de personnes qui travaillent ces questions le rencontrent. Alors moi, je suis armée pour le comprendre et le digérer, mais ça peut créer effectivement un sentiment de, comment dire, d'injustice, entre guillemets. Voilà.
On abordera dans un troisième temps les freins et les difficultés rencontrées. Fabienne, en introduction, vous nous avez parlé d'une étude que vous avez menée dans un collège. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, présenter les résultats de cette étude?
Alors, pour recontextualiser un peu, ce collège, c'est un collège d'une grande agglomération de la banlieue lyonnaise qui était d'un réseau réussite scolaire. Dans lequel donc cette chef d'établissement était déjà sensibilisée sur la question des discriminations. C'était vraiment une demande de sa part de faire cette étude dans cet établissement, donc un établissement où déjà il se vivait de belles choses, de l'expérimentation, de la remise en question des pratiques, mais elle voulait aller un peu plus loin pour vérifier si, bah, malgré tout ce qu'il faisait, les élèves étaient quand même discriminés, qu'il y avait vraiment des différences dans les parcours de l'entrée en sixième à la sortie en troisième, et puis comment vraiment motiver les enseignants à se remettre en question. Donc, on a regardé les parcours de ces élèves selon trois critères. Donc là, vraiment, je me suis inspirée de recherches actions déjà existantes, hein, j'ai rien inventé. Critère du genre a été regardé avec le sexe indiqué sur le dossier de l'élève. Un critère sur l'origine sociale qui a été déterminé par l'attribution ou non d'une bourse à l'élève. C'est qu'un seul des critères qui pourrait être pris en compte, bien sûr. Et le critère de l'origine ethnique, réelle ou supposée, qui a été déterminé par la connotation d'origine du prénom. C'est-à-dire que j'ai pris les prénoms de la cohorte d'élèves et j'ai demandé à une quinzaine de personnes si, selon eux, le prénom avait une connotation d'origine européenne ou extra-européenne. Donc, bien sûr, ça n'indique pas l'origine réelle de l'élève, ça interroge les représentations qu'on met derrière un prénom. Donc c'est des indicateurs qui sont subjectifs, qui sont incomplets, mais ils font partie des indicateurs qu'on utilise au quotidien pour construire des représentations, et en ça, ils sont légitimes. Donc la conclusion de l'analyse, c'est malheureusement, les parcours, ils sont loin d'être homogènes, et ils varient selon le genre, l'origine supposée, la classe sociale de l'élève. Au niveau des résultats scolaires, comme beaucoup d'autres recherches l'ont montré, il y a un poids du critère de l'attribution d'une bourse, du prénom à connotation d'origine extra-européenne, qui est pénalisant, et qui creuse des écarts de la sixième à la troisième. À la troisième, il y a vraiment une polarité qui se dessine, avec d'un côté les filles au prénom à connotation d'origine européenne, et de l'autre les garçons au prénom à connotation d'origine extra-européenne. Il y a également des différences au niveau des orientations, mais je vais vraiment là vous parler plutôt des appréciations sur les bulletins scolaires, puisque bien sûr il y a des appréciations qui sont différentes en fonction des notes de l'élève. Ça paraît plutôt logique, quoique ça puisse être remis en question. Mais on a regardé les appréciations à niveau de notes égales, et là on voit quand même des différences. Donc à niveau, on remarque que plus l'élève a de bonnes notes, plus il est tutoyé par son professeur, il y a vraiment un sentiment de proximité, on s'adresse directement à l'élève. Quand il a de moins bonnes notes, on l'appelle il, elle, on s'adresse en fait à un tiers, par exemple des parents. Mais à niveau de notes égales, il y a quand même une différence. Donc ceux qui portent un prénom à connotation d'origine européenne sont plus souvent tutoyés, en moyenne 7 fois plus, que les élèves qui portent un prénom à connotation d'origine extra-européenne. J'ai regardé également l'utilisation du terme sérieux, sérieuse. À niveau de notes égales, les élèves qui portent un prénom à connotation d'origine extra-européenne sont 13 fois de moins appelés sérieux, sérieuse. Donc on voit là un poids des représentations qui pèsent sur les élèves, donc avec des niveaux de notes différents, des appréciations différentes, des orientations différentes. Je vous invite à regarder sur le site du Réseau national de lutte contre les discriminations à l'école si vous souhaitez voir d'autres résultats sur cette étude. En parallèle de cette étude, j'ai également effectué des entretiens avec 13 professionnels de l'éducation de ce collège qui s'étaient portés volontaires pour répondre à mes questions. Je leur ai globalement posé la question « Est-ce que l'école discrimine ?» et ils m'ont globalement répondu « Non ». Ou en tout cas, pas dans leur classe. Ou si les élèves sont victimes de discrimination, c'est en dehors de l'école, dans la recherche de stage, etc. Donc, quand on a organisé une réunion un peu publique où j'ai montré ces résultats aux professeurs, il y avait vraiment un sentiment de malaise chez eux, d'autant plus qu'ils m'ont dit à plusieurs reprises se sentir bien dans ce collège. Là, il n'y avait vraiment pas de stratégie de fuite de ce collège. Ils voulaient travailler ici et ils avaient vraiment l'impression d'avoir de très fortes valeurs égalitaristes qui ne pouvaient pas leur permettre d'avoir des pratiques discriminatoires. Donc là, vraiment, ça a été un moment assez violent pour eux.
Merci. On va donner la parole à Anne aussi. Peut-être, si vous permettez un petit soulignement là aussi, un point sur lequel il faudra peut-être qu'on revienne dans la discussion, y compris sur les difficultés ou les limites. Ça a été un petit peu ouvert par Sabah Atimni sur l'expérience de racisation que l'on subit en tant que personnel, d'accord, et le personnel, dès lors qu'on prend position sur ces questions-là. Peut-être deux éléments, c'est-à-dire, il y a, à travers tout ce qui est dit, des stratégies différentes, mais convergentes peut-être, sur donner forme concrètement au problème, donc mener des diagnostics, mener des études, le faire valoir auprès des professionnels. Qu'est-ce qu'on en fait? Quels effets ça génère? C'est ce que pose Fabienne Ferreron aussi, hein, c'est-à-dire comment on partage ces savoirs-là, quels effets ça a sur du point de vue des professionnels. C'est peut-être aussi, on pourrait y revenir dans l'Académie de Nancy-Metz, un journal qui circule et qui rend visible et des situations et des pistes de levier d'action, on pourra en reparler, avec peut-être deux limites, c'est que les formes, pour le coup, que l'on fait circuler dans les exemples que donnait Laurent Sucropina, c'est principalement des situations micro-locales et des interactions. La situation est un peu différente à travers le travail de Fabienne Ferreron, qui, pour le coup, est sur une étude de plus globale, mais qui reste à l'échelle d'un établissement, et qui permet de poser non pas la question seulement des pratiques individuelles, mais des dimensions systémiques, qui sont tout à fait aveugles du point de vue des professionnels. Donc comment on travaille ces questions-là, y compris comment on remonte éventuellement à des logiques de nature structurelle, systémique, institutionnelle. Hein, est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça fera partie? On verra peut-être des difficultés. On reprend peut-être sur des difficultés ou pas. Peut-être Fabienne Ferrand. Oui.
Donc, les professeurs de ce collège étaient un peu dans une phase de déni, comme on a pu déjà un peu en parler. Moi, à l'époque, j'avais mis en parallèle à des témoignages d'enseignants du CRDP de Grenoble en 2013 qui avaient effectué une recherche-action sur la question des discriminations dans leurs pratiques et qui avaient expliqué être tous passés par une étape de déni malgré le fait qu'ils étaient sensibilisés sur le sujet et volontaires pour le travailler. Et que le fait de découvrir qu'ils pouvaient avoir dans leurs pratiques qu'ils pouvaient être discriminants, les a mis dans des situations très inconfortables, où l'étape de déni était importante et il leur a fallu de nombreuses séances de travail pour pouvoir accepter cette idée et la digérer. Et quand ensuite ils ont présenté les résultats de leurs travaux à leurs collègues, là, encore une fois, ils se sont rendus compte que leurs collègues se sentaient agressés et qu'ils ont réagi violemment en remettant en question les résultats de ces travaux. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, Fabrice. Finalement, je me suis rendu compte lors des entretiens et puis particulièrement auprès de la chef d'établissement que les professionnels de l'éducation qui semblaient être les plus avancés sur la question sont ceux qui avaient eux-mêmes déjà expérimenté une situation de discrimination dans leur parcours. Donc cette chef d'établissement, elle m'a raconté son parcours et elle raconte être elle-même issue d'un milieu populaire et qu'elle a très vite eu conscience du regard des instituteurs, institutrices sur elle. Et voilà, que quand elle était au CM2, on ne voulait pas qu'elle passe au secondaire. Et c'est sa famille, ses sœurs qui avaient très tôt arrêté les études, qui ont tout fait pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Et donc, pour comprendre ce qu'elle a vécu, avoir des bonnes clés de lecture et pouvoir agir pour changer les choses à son niveau, et ben, elle est passée par plusieurs étapes. La première, ça a été de se former. Donc, on en revient toujours aux mêmes choses, mais elle a suivi une formation entre directeur de centres sociaux, chef d'établissement, directeur, une formation menée par Saïd Bouamama, sans culpabilisation, mais basée sur des faits. Voilà. La deuxième étape, ça a été de s'entourer de personnes qui ont envie d'agir. Et elle a tenté pendant plusieurs années de travailler la question des discriminations au niveau syndical, au niveau de son bassin. Elle n'a jamais eu de retour de gens qui étaient partants pour ne serait-ce que parler de la question des discriminations. Donc elle s'est sentie vraiment isolée au sein même de l'éducation nationale. Et finalement, c'était dans ce collège sur la ville, il y a eu un plan de lutte contre les discriminations sur la ville. Elle a adhéré au réseau national de lutte contre les discriminations à l'école qui a été constitué à l'Institut français d'éducation. Et donc là, elle s'est retrouvée à partager avec d'autres personnes les mêmes préoccupations et elle a pu mettre en place dans son établissement une dynamique de remise en question, d'expérimentation. Parce que pour elle, vraiment, les professeurs ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Elle me racontait que voilà, s'ils ne voulaient pas d'une réforme, ils n'avaient qu'à pas l'appliquer et qu'au final, elle finissait par disparaître d'elle-même. Elle n'entrait pas en application. Et selon elle, vraiment, c'est, les professeurs ont ce pouvoir-là de faire changer les choses et qu'ils pourraient changer le système pour lutter contre les discriminations au lieu de rester dans une posture qui, selon elle, est de l'ordre de la bienveillance, qui sert à minima à maintenir une paix sociale, mais que ce n'est pas là le rôle de l'école. Donc c'est pour ça qu'elle avait gardé ces documents pour permettre l'analyse de cette cohorte et pour vraiment motiver les enseignants de son collège à reconnaître cette question des discriminations et vraiment travailler effectivement dessus. Elle a fini par s'interroger. On parlait tout à l'heure de la question des privilèges. Elle revient toujours cette question. Voilà, est-ce que elle me disait, si les professeurs ne veulent pas traiter de ça, est-ce que c'est qu'au fond, ils ne veulent pas de cette égalité qui donnerait davantage de chance à tout le monde et mais peut-être prendrait ma place ou celle de ma progéniture. Donc c'est une question qui revenait chez elle aussi. En tout cas, dans son cas, comme dans d'autres, c'est tout un parcours qui a permis la reconnaissance des discriminations à l'école, avec voilà, différentes étapes, le fait d'étudier quantitativement et qualitativement des parcours d'élèves, des pratiques enseignantes, pour faire émerger des processus créateurs d'inégalités et de discrimination. Et c'est ensuite, une fois que le problème est reconnu, qu'on peut se lancer dans des pistes d'action plus concrètes, quand on est entouré de personnes qui veulent agir et quand on a vraiment aussi une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir expérimenter des choses.
Alors, les freins, donc j'ai déjà évoqué un frein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le premier frein que j'ai trouvé assez étonnant, bah, c'est le terme que j'utilise, c'est de faire appliquer la loi, tout simplement, bah, la loi, le code pénal, bah, par rapport à la lutte contre les discriminations, on n'invente rien, on a un arsenal de lois qui nous protège, et donc, et par là même, au sein de l'éducation nationale et dans les établissements scolaires, la loi aussi en lien avec les valeurs que défend l'école, hein, les valeurs républicaines, effectivement, qui doivent faire sens au niveau des élèves, pour qu'ils s'y retrouvent, qu'ils se sentent citoyens, investis et impliqués. Et donc, c'est là tout l'intérêt de l'école et c'est tout l'intérêt d'un personnel de l'éducation nationale à défendre cela. Donc là, c'est vrai que de montrer... Alors, effectivement, quand on est dans... tout à l'heure, j'évoquais les espaces de dialogue qui manquent et c'est aussi un frein assez important qui n'est pas du tout pensé, en fait, en termes de... j'allais dire, d'accompagnement des équipes, parce que les professeurs ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de moments d'échange, de pratique, parce qu'au quotidien, un enseignant, c'est aussi une pratique difficile et il faut l'entendre. Et donc, c'est vrai qu'avoir des lieux pour discuter, pour échanger et pour réguler ces situations manque énormément. Et que souvent, effectivement, les personnes, on l'a évoqué tout à l'heure, ignorent la loi. Et c'est juste faire appliquer la loi et la montrer, l'utiliser pour justement réguler ces situations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, enfin le troisième point, puisque j'ai évoqué les manques de lieux de dialogue, c'est également de travailler aussi, puisque les freins, c'est quand même beaucoup des préjugés. Hein. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui partent à l'éducation nationale, qui sont fonctionnaires d'État, qui doivent faire appliquer la loi, mais qui sont imprégnés, habités par des préjugés qu'il faut aussi arriver à toucher, à déconstruire. Alors, par quel biais, effectivement, en essayant de par l'organisation, par le bouleversement des pratiques, essayer de faire évoluer les mentalités. Mais ça reste quand même un travail de longue haleine. Et puis, les personnels dans les établissements, ils sont mobiles, hein, ils bougent, il y a un turnover. Installer une politique d'établissement avec des personnes qui, parfois, dans certains établissements, j'entends bien, parce que dans d'autres, ils sont là, ils restent 20 ans, 30 ans, sur le même établissement, mais dans certains... Je pense à la région parisienne, on a quand même un turnover sur l'établissement qui est quand même assez conséquent. Et donc, pour justement mettre en place une action pérenne, c'est un peu difficile. Et puis, le dernier point, et pas des moindres, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que, en tant que... Voilà, c'est difficile de dire ça, parce qu'être renvoyé à ses origines, c'est clair que c'est un frein majeur qui peut aussi entraîner un certain découragement de la part des personnes sur le terrain qui travaillent ces questions. Parce que moi, j'ai deux exemples probants. Quand j'étais enseignante, je parlais de ces questions au niveau des stages en disant qu'il fallait effectivement faire quelque chose au niveau du terrain en lien avec les tuteurs d'entreprise, on me disait bah tu défends les tiens. Bon, voilà. Donc j'ai eu ce genre de réponse qui laisse à penser ce que vous pouvez penser des personnes qui l'ont dit. En tant que personnel de direction, j'avais aussi quelques remarques, mais alors ça n'a rien à voir. Là, mais ça permet de voir aussi que les personnels ne nous voient pas forcément, enfin, renvoient à chaque fois les propos qu'on peut donner à nos origines. C'était pendant l'entre-deux-tours, c'est assez récent, l'entre-deux-tours des élections présidentielles. Et donc... le cuisinier d'établissement me regarde et me dit très clairement « ça sent mauvais pour vous ». Voilà, donc ce genre de remarque. J'étais principale adjointe. Donc en rigolant évidemment, donc c'est un peu dur. Et la dernière chose, et là c'est pour dire qu'il faut vraiment être vigilant, mais au quotidien, même quand on travaille ces questions, on peut être aussi... il faut être toujours vigilant. Au sein du groupe même de lutte contre les discriminations, nous abordions une question, puisque nous débattons souvent, comme c'est un groupe pluricatégoriel, on débat, on n'est pas d'accord, et on échange sur des situations, sur quelle est la meilleure des pratiques à avoir et qu'est-ce qu'on doit faire. On avait un cas d'un élève de bac pro en formation continue qui voulait faire cuisine, et le cas se posait parce que finalement, il n'a pas pu faire cette formation parce qu'on lui a dit, comme il est musulman, il ne peut pas toucher du porc, donc il ne fera pas cuisinier. Donc moi, on a échangé, donc j'ai dit, mais c'est pas absolu, on n'a pas besoin de goûter pour être cuisinier, et puis ce n'est pas sa religion, puis dans ces cas-là, il peut pas, une personne d'origine juive ne peut pas faire aussi cuisinier, et celui qui est vegan, c'est pareil. Donc on échangeait sur ces questions-là, et là, j'ai été interpellée par un membre du groupe de lutte contre la discrimination, mais tu dis ça parce que tu es d'origine maghrébine. Donc voilà, on revient sur des... Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, qui constitue un frein et qui permet aussi de mettre de côté et de discrédibiliser un peu le propos qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, je me présente pas comme une d'origine maghrébine. Je suis française à part entière avec des origines variées. En France, voilà, je ne vais pas non plus refaire ce débat-là, mais c'est important, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, comment travailler ces questions, je pense qu'il faut les penser, voilà, ces questions.
Merci. Du coup, juste pour finir,
Sabelle ne dit pas que effectivement le découragement et puis de voir que dans le groupe ressources il y avait ces propos-là, on a travaillé, on a discuté de ça et puis elle a pu le dire après dans le groupe et ça a été un sujet de discussion. Bien sûr que y compris dans le groupe de personnes mobilisées, il peut y avoir des choses comme ça qui. Tu veux ajouter quelque chose?
Oui, j'ai eu un temps de recul. Et ensuite, effectivement, comme il faut dire les choses, parce que si on ne les dit pas, qu'on ne les travaille pas, qu'on ne les rend pas visibles et qu'on n'exprime pas les choses, on ne peut pas les travailler. Donc il est important de les dire et de les rendre visibles. Voilà.
Voilà, merci. Laurence, tu voulais encore? Oui, bon, un petit tour et puis on ouvre la discussion.
Ok, en vrac. Alors, à l'ESEN, en fait, c'est effectivement l'intervention qu'on a faite sur une journée, ce n'était pas la formation initiale, et on a pu travailler les discriminations ethnico-raciales aussi.
Voilà, c'était l'université.
Alors, oui,
qui
du coup,
était le public.
Oui, mais comme c'est juste cette précision.
Oui, non, mais je parle de l'enseignement supérieur. Okay, l'enseignement supérieur, il y a des sensibilisations, informations autour de l'égalité femmes-hommes, okay, autour du handicap,
mais pas,
et c'est tout. Je parlais bien de l'enseignement supérieur.
Ça marche. Voilà, d'ailleurs, juste...
On pourra se demander pourquoi c'est si difficile de l'ouvrir, y compris dans les formations pour l'université.
Ouais. Et d'ailleurs, ça a eu beaucoup d'intérêt. Il n'y avait pas assez de temps, comme aujourd'hui. C'est toujours un peu la question. Aussi, une réponse sur la question structurelle. En travaillant sur les pratiques des professionnels, bien sûr qu'il est question de travailler sur la structure. Alors, je n'ai pas détaillé tout ce qu'on fait dans les temps de formation, mais on essaye de monter en généralité, de voir après dans les pratiques quels sont les principes, les leviers qui vont faire qu'au quotidien, dans les processus de décision que je vais prendre, comment je peux éviter... Alors, il y a évidemment les critères prohibés, il faut vérifier qu'on ne les utilise pas à un moment donné, etc. Et donc, j'ai l'exemple d'une PsyEN, donc les anciennes COP, là, qui on a pu aller assez fin. Alors là, il y a une question de temps de formation, mais elle a évoqué l'accompagnement d'une jeune fille qui voulait faire esthétique et qu'elle savait musulmane. Alors du coup, elle a parlé du rapport au corps et elle m'a dit, est-ce que du coup, ça ne serait pas un peu discriminatoire la manière dont je l'ai accompagnée? Et donc, on a pu travailler ça de manière très fine, comment dans l'entretien, parce qu'elle a déjà des jeunes filles qui, par rapport à l'esthétique, se disent « Ah oui, le rapport au corps », et qui ne sont pas identifiées musulmanes, mais pour qui, après, elle va prolonger en disant « Oui, mais enfin, tu vois... » Enfin, elle essaye d'accompagner pour que la personne, éventuellement, se dise « C'est pas si embêtant que ça », etc. Mais là, elle ne l'a pas fait, parce que, comme elle l'a identifiée musulmane, elle s'est dit « C'est peine perdue, ça ne servira à rien ». Donc, on arrive à travailler, des fois, assez finement, quand on a le temps, pour que ça modifie de manière structurelle, après, les pratiques, et pour faire vite, puisqu'il faut faire vite. Je reviens pas sur le tabou et qui pèse sur ces questions et notamment la discrimination raciale qui fait qu'on a une sorte de cercle vicieux. Comme il y a un tabou, on peut pas penser les choses. Comme on peut pas penser les choses, les craintes, elles montent et du coup, on peut dire à un moment donné, on a peur de notre ombre. C'est sûr que l'impensé... accentue les craintes et que du coup travailler ces questions-là, il y a un fort pouvoir et ça a été évoqué ces deux jours de culpabilisation parce qu'on a une vision morale des questions et qu'on identifie la discrimination à l'idéologie raciste, sexiste, homophobe, etc. Et alors du coup ça peut générer de l'agressivité, mais ça on apprend aussi à faire avec et du coup on renvoie aux élèves. Ou alors le racisme c'est il y a longtemps très loin, par exemple l'Afrique du Sud, tiens, Alice Simon le rappelait à l'école primaire déjà ça a lieu. Je suis d'accord avec Jean-Luc Primon quand il dit qu'il faut distinguer la discrimination comme les pratiques des adultes et ne pas parler de ce que les élèves font parce que c'est très opérationnel pour travailler avec les professionnels de distinguer les deux et clairement il y a un pouvoir que les élèves n'ont pas. Et l'ambiguïté du terme, alors c'est assez étrange, des fois elle ouvre des portes. C'est-à-dire qu'on m'appelle pour travailler les discriminations en pensant les élèves entre eux. Et alors du coup, ça ouvre un espace de discussion où moi je peux ramener que... Mais au fait, on travaille les discriminations en termes de pratiques professionnelles. Et cette ambiguïté, du coup, a permis l'accroche, on va dire. Et puis quelquefois, on passe 4 heures dans une réunion avec des professionnels qui ont tout l'outillage intellectuel. Et moi, je ne comprends pas ce mystère-là qui fait que j'explique une fois que la discrimination au sens de la loi, ce sont les pratiques des pros, mais que ça glisse tout le temps vers les élèves. Alors ça, c'est mystérieux. Pour moi, je ne sais pas. Mais ça marche après en le rappelant 15 fois pendant 4 heures. Mais voilà. Au niveau structurel, j'ai parlé du temps court de formation qui n'est pas aidant. Le groupe ressources a eu 7 jours de formation avec Fabrice Dume et ça a donné des bases solides pour le travail. Structurellement, il y a un problème de comment le public peut dire l'injustice. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça. Les élèves, ils disent souvent, mais de toute façon, moi, si je vais voir le prof pour dire que hein, les profs ont toujours raison, alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais ça doit être tellement massif quand même, cette parole-là, elle n'est pas autorisée, elle est difficile à entendre. Et puis alors, avec ça, évidemment, si on n'a pas de parole sur des situations conflictuelles, on ne traite pas bien l'aspect émotionnel. Alors, il en parlait un petit peu, Fabrice, sur la question de la peur, mais bien sûr que les élèves, quand on parle de racisme et de discrimination, il y a de l'émotion et qu'il faut pouvoir l'accueillir. Quand les professionnels en parlent, il y a de l'émotion, il faut pouvoir l'accompagner aussi. Et ça, je pense qu'il y a besoin que l'école outille les professionnels sur comment on fait avec les émotions. Quand à un moment donné, j'entends que Yacine n'a pas eu le stage dans le supermarché en troisième, et puis Elodie de la même classe l'a eu, et la principale me dit « Écoutez, il va falloir que vous m'aidiez parce que moi, j'ai peur de m'énerver. » Et alors, cette principale, qui est très investie, elle est tout à coup tellement énervée par cette situation qu'elle se sent incapable d'intervenir auprès de l'entreprise. Et là, c'est bien un travail sur comment on fait avec les émotions qui sont remuées par toutes ces questions-là. Je m'arrête là, je crois.
Merci. Ouais. On va peut-être prendre les questions de la salle avant d'aborder, si on a le temps, les stratégies ou les remarques, avant d'aborder dans un dernier temps les stratégies pour contourner les résistances. Mais vous avez déjà abordé ce sujet, certaines d'entre vous.
Puis deux, puis trois,
oui, on a plein de questions.
Puis cinq, puis six.
Dans quel ordre ?
Alors, numéro un, c'était moi. Donc je vais me présenter, puisque là on parle de pratiques... dans certaines institutions. Donc je suis Marie-Christine Serrato de Benedetti et je travaille à la ville de Villeurbanne. Je suis chargée de mission à la lutte contre les discriminations. Bienvenue. Enfin voilà, je suis quelque part une consoeur d'un certain nombre d'entre vous à la table. Je voulais témoigner quand même un petit peu de mon point de vue, qui est un peu décalé par rapport à la question des discriminations dans l'école, dans l'université, puisque dans une collectivité locale, on peut être amené à travailler sur ce qui va toucher tous les citoyens qui habitent la circonscription, on va dire, mais aussi, on va aussi évidemment travailler sur nos propres pratiques, et ça a été une des conditions de pouvoir afficher politiquement que la ville de Villeurbanne luttait contre les discriminations. C'était d'abord de se dire à l'interne, à l'emploi, dans nos politiques de logement, dans nos politiques éducatives, etc. Est-ce que déjà nous pratiquons, nous coproduisons nos pratiques apparemment neutres produisent des inégalités. C'est pas facile, c'est toujours pas fini. Et d'ailleurs, sur égalité femmes-hommes, on sait très bien que c'est comme ça qu'il faut travailler. Ce qui n'est pas toujours le cas sur discrimination, puisqu'on a tendance à l'attribuer à d'autres. J'ai entendu une phrase, Madame Cupiette, que vous avez dit. Vous avez dit « les discriminations raciales ne sont pas un problème ». Alors, même les discriminations, en tout cas. Si, vous l'avez dit, mais... vous pourrez. Je suis tout à fait d'accord.
Pas considéré voilà. Comme.
Oui, mais c'est ça.
C'est pas du tout pareil.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, au point que je suis l'auteur d'une thèse sur les discriminations ethno-raciales qui s'intitule, qui porte justement sur le fait qu'elles ne sont pas un problème public. Et elles ne sont pas un problème public, ça veut dire qu'effectivement, elles ne sont pas considérées comme un fléau social de la part de ceux qui nous gouvernent globalement et donc à différents niveaux de responsabilité, qu'elles ne sont pas considérées donc comme un fait social dramatique qui peut avoir des conséquences très importantes et que par ailleurs, elles ne sont pas considérées comme... un fait social qui intéresse toute la société. Puis public, ça veut dire que ça ne vise pas, ça n'est pas seulement le problème de ceux qui subissent, mais c'est le problème de toute la société. Et évidemment, tant que ces discriminations ne sont pas un problème public, il n'y a aucune raison qu'il y ait une volonté d'agir. Alors, comme moi, on est chargé de mission à la lutte contre les discriminations. Ce constat, quand on le fait, évidemment, on cherche à agir sur le fait que ces discriminations, je vais raccourcir, n'ont pas encore acquis ou ont acquis partiellement ce domaine. Et ce que je veux dire pour reprendre deux niveaux d'intervention, c'est que je travaille avec des élus, donc qui sont un peu au même niveau que, de façon différente, mais donc qui sont élus et qui portent une responsabilité politique. Et tant ces élus, donc en l'occurrence une adjointe au maire, que des chargés de mission, donc qui sont des administratifs, nous avons commencé par nous former déjà pour savoir de quoi nous parlions, pour essayer de voir quels étaient les constats qui étaient faits. Et ensuite, évidemment, de faire réseau, comme vous l'avez dit aussi, et comme ça a été dit aussi dans d'autres domaines, pour consolider nos connaissances et aussi partir de ce qui est de l'existant, là où une petite écoute, même si elle n'est pas terminée, alors pour les élus, c'est quelquefois écouter simplement les gens qui leur parlent, eh bien, on vient les consolider par des outils comme des enquêtes, des diagnostics. Et il me semble qu'à l'université, l'enquête exploratoire peut être une petite écoute. Voilà.
Merci.
Oui, bonjour. Sylviane Larcher, chercheur CNRS à l'URMIS. J'ai une question pour Anne Kupiec, qui est sous deux formes, donc je ne serai pas très longue. Une interrogation et ensuite une interpellation. Vous avez souligné l'échec de l'université d'une manière générale et plus précisément de l'université Paris Diderot à avancer sur la question de l'objectivation du problème des discriminations ethno-raciales à l'université. Dans ce que vous nous avez dit, on entend à la fois que l'enquête présentée par les étudiants hier après-midi n'était peut-être pas ne permettait pas de faire de poser un état des lieux du problème dans l'université ici à Paris Diderot. Du coup, j'ai envie de vous demander pour sortir de l'échec, comment à votre niveau en tant que vice-présidente aux relations humaines à l'université Paris Diderot, vous pourriez aider à faire avancer la prise en compte de ce problème et donc à la mise en œuvre des dispositifs d'enquête permettant d'objectiver de manière plus large le phénomène au sein de l'université. Donc ça, c'est pour l'interpellation. Et puis la question, quand on vous entend, on en déduit, alors vous avez répondu à l'interpellation, à la question de la précédente intervenante, vous nous dites que vous n'avez que à l'université, officiellement, ce problème n'existerait pas. J'ai envie de vous demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une volonté de ne pas savoir. Et du coup, qu'en pensez-vous, non seulement dans la position qui est la vôtre, mais aussi en tant que sociologue, comment pouvons-nous, au sein de l'université, plus généralement en tant que chercheur et en tant que sociologue, contribuer à sortir d'une espèce de voile d'ignorance qui contribue à maintenir une cécité quant à l'évaluation de l'importance ou pas de des discriminations ethno-raciales au sein de l'université, puisqu'il est douteux qu'elle n'existe pas dans l'institution alors qu'elle existe dans d'autres espaces, non seulement de la société, mais dans d'autres espaces scolaires, plus généralement en France comme ailleurs, comme l'a montré le colloque depuis 3 jours. Merci.
Merci. Il y avait une prise de parole ici. On prend toutes les questions et choses parce que voilà, il nous reste une bonne dizaine de minutes seulement avant la conférence de clôture.
Je vais être très rapide. Ce serait juste pour compléter ce que viennent de dire mes deux collègues. Donc, ce serait une question d'abord pour Anne Kupiec. Dans ce que vous avez dit, vous avez à plusieurs reprises mentionné la différence de nature entre l'espace scolaire et l'espace universitaire. Sur deux points, en fait. Le premier point, c'est que donc, vous avez mentionné l'existence de copies anonymes. Bon, effectivement, il y a des examens sur copies anonymes, mais il y a aussi beaucoup de modes d'évaluation qui ne reposent pas sur ce type d'examen. Donc il y a beaucoup de contrôle continu à l'université, etc. Par ailleurs, un des rouages vraiment des discriminations dans les établissements secondaires, ce que vous dites souvent, c'est le problème des stages, en fait. Ce problème-là, par exemple, se pose aussi à l'université. On a énormément de formations où les étudiants doivent faire des stages, parfois de manière obligatoire, et donc on a aussi ce problème-là en tant qu'enseignant dans le supérieur. C'est deux petits exemples. Il me semble en fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre les deux espaces. Après, on a affaire à des adultes, mais on discrimine autant des adultes que des enfants. Donc voilà, pour moi, ces spécificités-là ne me parlaient pas. Voilà. Et puis, une deuxième question, ce serait pour Fabienne plutôt Ferreron. Moi, j'ai été très intéressée par l'expérience que vous avez racontée. Je voulais savoir, en fait, comment vous étiez passée de ce moment où vous partagez avec les acteurs de l'établissement les résultats de votre étude, qui est donc ça crée du malaise. Comment vous passez de cette situation de malaise à finalement à autre chose, hein. Est-ce qu'il y a eu du coup après une prise de conscience, quelque chose de plus positif, et comment ensuite des actions ont pu éventuellement être déclinées? Voilà.
Merci. Une prise de parole.
Oui. Alors déjà, je voulais vous remercier, Madame Ferreron, de m'avoir fait découvrir votre étude. Et puis rapidement, je voulais revenir sur deux points, notamment les sorties scolaires dont vous avez parlé, Madame Atmini, et la question de l'orientation. Concernant les sorties scolaires, alors on sait effectivement qu'il existe des freins internes aux établissements scolaires relatifs aux élèves perturbateurs, entre guillemets, tels qu'on peut les appeler. Après, il me semble qu'il y a une tendance récente, décomplexée, qui fait qu'un certain nombre de personnes dans la société n'hésitent plus aujourd'hui à afficher clairement leurs préjugés et à faire preuve de discrimination quant à certaines populations. J'ai en tête l'exemple d'une sortie scolaire d'élèves d'un lycée de Stein au musée d'Orsay qui avait été médiatisé parce qu'un agent du musée avait tenu des propos inacceptables à l'encontre des élèves. En tant que CPE, je suis aussi référent vie lycéenne, et j'avais assisté l'année dernière à une journée organisée par la Maison des lycéens. Il y avait des témoignages d'élèves, voilà, une journée il y avait un thème relatif aux relations jeunes police. Il y avait donc des lycéens qui témoignaient d'un voyage scolaire au Parlement européen de Bruxelles, qui racontaient que lors de leur retour et de leur sortie de l'Eurostar, il y a eu un contrôle de police dans la gare, alors que les élèves étaient placés sous l'autorité naturellement de l'enseignant. Malgré tout, des agents s'étaient permis de contrôler des élèves, bien sûr, on peut imaginer lesquels. Et pour la petite anecdote, moi-même, dans mon établissement professionnel, j'avais été informé il y a quelques années que lors d'un cours, donc d'un enseignement, sur le parcours de retour pour rejoindre l'établissement après un cours de PS au stade, un élève avait été interpellé par une brigade de CRS parce que, alors qu'ils étaient eux aussi placés sous l'autorité de l'enseignant. Alors ça avait été compliqué, la proviseure avait dû contacter le commissariat en expliquant que c'était inadmissible ce genre de pratique. Et enfin, la deuxième chose concernant l'orientation. Je voulais, en fin de troisième, le dernier mot en ce qui concerne la poursuite d'études revient aux familles. C'est très bien pour les familles qui, effectivement, ont un capital socio-culturel ou socio-économique intéressant. Par contre, dans le cas des familles pour qui la maîtrise de la langue française est compliquée, le dernier mot est difficile à avoir. Donc, effectivement, il s'agit de s'en remettre et de faire confiance à l'institution. Et ce que je constate, moi, dans mon établissement, et ça m'a énormément frappé ce jour-là, parce que finalement, je suis plongé dans le quotidien et je finis par considérer la situation comme normale, cette situation presque, j'allais dire, de ségrégation, d'apartheid. C'est d'ailleurs un homme politique de premier plan que je ne nommerai pas, mais qui est aujourd'hui candidat dans une municipalité de la péninsule ibérique, qui en avait parlé. Et donc, tout en parlant à la fois en parlant de la situation de son marché, des whites, des blancos, etc. Enfin bon, effectivement, j'avais été alerté lors d'un bac blanc, l'épreuve se passait mal, et j'étais intervenu dans une classe de terminale électrotechnique, et ce qui m'avait frappé, véritablement frappé, c'est que la quasi-totalité des élèves, que je connais bien par ailleurs, étaient tous d'origine afro-caribéenne. Il n'y avait pas de blanc. Voilà. Et donc, je mets ça en lien avec l'orientation post-troisième. Et dernière chose, je termine là-dessus, concernant Parcoursup. Parcoursup, aujourd'hui, effectivement, on connaît la réussite de ce nouveau dispositif, notamment pour les 2500 élèves au moins, puisque ce sont les chiffres officiels, qui sont sans solution. Donc, qui n'ont pas obtenu de ce qu'ils demandaient pour la poursuite de leurs études post-bac. On sait qu'un très grand nombre d'entre eux ont obtenu un baccalauréat professionnel. Et lorsqu'on sait également que Parcoursup, donc on sait tous que majoritairement, il y a plus d'élèves issus des minorités visibles dans les bacs professionnels qu'en terminale S. Voilà, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que Parcoursup, maintenant, cantonne les lycéens de banlieue aux universités de banlieue. Donc si on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'étudier à Champigny ou dans une autre ville, peu importe, on va se retrouver soit à l'UPEC de Créteil, ou alors à Villetaneuse, ou alors à Saint-Denis. Accéder à Jussieu ou à Sancier, ce sera très compliqué.
Merci. Marie McEnroe.
Un commentaire, une question. Commentaire, c'était un peu en réaction à Mme Aptini et à Mme Groupina différemment. Quand on m'a posé des questions, par exemple, ça voulait dire quoi, safe, welcome, et même le mot LT, sain, eh bien, ça veut précisément dire que dans un milieu où tout le monde est accueilli et où est en sécurité, on n'a pas de micro-agression, et si on en a une, on a un lieu pour en parler. C'est clairement pour la rétention du personnel minoritaire, ça repose énormément sur ce sentiment, justement, d'être micro-agressé continuellement. Même chose pour les étudiants, qu'il y ait des lieux où on parle de student voices, c'est très important finalement, que ce soit à l'intérieur des classes régulières, si c'est possible, ou même des lieux où les étudiants peuvent discuter de ces questions-là. Maintenant, ma question est un peu choquante, mais j'ai envie. Je me demandais, vous avez beaucoup parlé des peurs et des résistances, mais je me demande si l'entrée même si étroite par la discrimination et pas en soi génère cette résistance, au sens où il y a une première tentation qu'on a vue dans la présentation de Mme Cupiec, qui est de réduire finalement, même si on a beaucoup parlé de discrimination systémique, de réduire la discrimination institutionnelle, intentionnelle et individuelle, ce qui permet de dire, bien, il n'y en a pas, on a trois cas de rapportés. Et à l'inverse, je dirais que de l'autre côté, est-ce qu'on ne risque pas de produire une réaction de défense? Alors que si on pose la question plutôt, est-ce que notre institution est inclusive? Est-ce qu'elle assure le même bénéfice à tous? Est-ce qu'elle sert de la même façon tout le monde? Et après, essayons de trouver des moyens. Une partie de ça est peut-être due à des moyens compensatoires qu'il faut mettre en place, qu'on ne peut pas complètement délégitimer. Une autre partie est une remise en question de nos pratiques. Mais commencer par un objectif positif de soyons imputables et servons équitablement tout le monde. Est-ce que ça n'a pas plus de chances de passer que d'entrer par la lorgnette de la discrimination? Alors, je contredis notre ami ici qui dit qu'il faut d'abord être passé par la discrimination pour aller à l'inclusif. Je ne suis pas si sûr quand je vois le niveau de résistance que vous évoquez, mais c'est une hypothèse.
Merci. Deux dernières questions très rapides, ou questions ou remarques très rapides, si vous voulez bien.
D'accord. Là.
Et Sophie, je suis très content que des étudiants qui soient mobilisés sur l'enquête fassent valoir leur travail, si c'est dans ce sens-là, Sophie. On aura peut-être, je me tourne vers le... Monsieur Toubon, vous nous accordez peut-être 5 minutes de décalage, si vous voulez bien, pour avoir un petit moment de réponse malgré tout. Hein. Merci.
Bonjour, j'ai une question, parce que je suis enseignante également en lycée professionnel à la Courneuve en lettres histoire. Et j'écoutais la collègue parler et le fait... Elle disait qu'on la renvoyait souvent à son origine et on a des enseignants qui sont issus, je les appelle comme ça moi, issus de la diversité, qui sont là, qui enseignent depuis plus longtemps que nous. Et quand nous, on est des nouveaux arrivants, on est confrontés en fait à un racisme qui est clairement établi dans le lycée parce qu'ils ont laissé faire. Alors on est supposé se laisser faire, nous aussi, parce qu'on est supposé courber les chines et on a des nouveaux professeurs qui disent non. Et qui sont très conscients, et les élèves le sont d'autant plus. Et c'est vraiment, pour moi, hein, personnellement, du point de vue de mon expérience, le fait qu'on me renvoie à mes origines, ça ne me pose pas vraiment de problème, parce que je l'assume totalement. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est comment le racisme s'est installé dans ces lycées professionnels, et que les collègues qui sont issus eux-mêmes de la diversité n'ont rien fait. On laissait faire et les élèves sont souvent brimés. Donc je voulais savoir ce qu'elles en pensaient. Et puis dernière question, lorsque vous avez interviewé les collègues au collège qui disaient que globalement tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème, je me permets de vous poser la question, est-ce qu'il y avait une donne ethnique est-ce que vous vous êtes posé la question de leurs origines? Parce que aussi, en fonction de son parcours ethnique, on n'a pas le même vécu. Voilà.
Merci. dernière prise de parole avant qu'on fasse un très 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 court tour de la table.
Oui, alors moi je voudrais plutôt parler à, répondre à Madame Koupiak par rapport à la question notamment des discriminations existantes ou non à Paris Diderot. Parce que j'aimerais pas que tout le monde parte en pensant que ça n'existe pas dans l'enseignement supérieur.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Cas à l'université.
Vous pourrez répondre, ici. Madame Koupiak, pas de souci.
Donc d'abord, vous avez balayé d'un revers de main le travail qui nous a pris plusieurs mois et qui nous a énormément engagés l'année dernière en Master 2. Donc c'était une pré-enquête exploratoire. Tout d'abord, qui a quand même, on a interrogé près d'une centaine de personnes. Et du coup, je me demandais pourquoi vous aviez accepté de faire partie du copil de ce travail, si vous pensez que c'est comme s'il n'y avait rien du tout à Paris Diderot, qu'il n'y avait aucun travail de recherche qui avait été ne serait-ce qu'amorcé à Paris Diderot. Ensuite, les 93 personnes qui ont répondu, ça veut dire qu'elles ne comptent pas. Alors que elles existent, et donc pour ne citer qu'un exemple, il y a 16% de personnes issues de minorités visibles qui nous ont répondu, qui ont dit avoir vécu des expériences d'inégalité de traitement, notamment dans leurs interactions avec le personnel administratif, par rapport à leur couleur de peau. Et peut-être que si du coup les pourcentages ne sont pas très... fiable, puisqu'il n'y avait que 93 personnes qui ont répondu. Je voudrais juste citer donc des propos qui nous ont été rapportés dans les questionnaires, qui relèvent là plutôt de propos en fait racistes ou de micro-agressions. Donc c'est pas des discriminations, mais voilà, quand même. Donc un étudiant français de parents français né en France, lorsque je faisais la queue pour m'inscrire en L2, une prof m'a interpellée pour me dire « ce n'est pas la queue pour la carte de séjour ici ». Ensuite, une étudiante française de parents vietnamiens en cours de M1 enseignement. Un prof m'a un jour demandé où j'avais appris le français car je n'avais pas l'étoffe d'une vraie française. Et enfin, un témoignage quelqu'un qui a vu qui était témoin. Un prof qui a dit à une fille asiatique au premier rang qu'elle devait parler plusieurs langues et être assidue au vu de ses origines. C'est donc ce qui a pu nous être rapporté, donc des exemples. Et donc à mon avis, ces profs n'ont pas été sanctionnés puisque ça ne nous a pas été rapporté. Et puis je me demande où est-ce que les élèves peuvent aller en fait, les étudiants, puisque il n'y a pas d'espace de parole qui est disponible à l'université pour témoigner de ces expériences, puisque il n'y a rien sur le site internet notamment. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, voilà, on est très serré en termes de temps. Ça nous montre bien les difficultés, effectivement, sur lesquelles on est. Deux mots, Fabienne, il y avait une question qui t'est adressée. Vraiment deux mots, s'il vous plaît, parce qu'il faut maintenant qu'on puisse clôturer ce colloque.
Alors, oui, il y avait des professeurs issus de la diversité, pour reprendre vos propos, dans ce collège-là, mais... Et même s'ils mettaient en place des choses formidables avec leurs élèves, ils n'avaient pas cette lecture en termes de discrimination, en tout cas pas dans l'école. En dehors de l'école peut-être, mais ça n'allait pas jusqu'à remettre en question les pratiques enseignantes. Et pour dépasser les situations de malaise, de déni, mes collègues, ça prend du temps, un temps que malheureusement j'avais pas dans le cadre de mon stage, mais... Voilà, il faut sortir du déni, sortir de la culpabilisation, et ça demande de prendre du temps, de questionner ses représentations, parce qu'accepter le fait qu'on est tous traversés par des représentations véhiculées par la société, et constamment remettre en question ses pratiques. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est discriminant? Voilà, pour peu à peu sortir du déni.
Rapidement, concernant les trois thématiques, vous avez abordé la sortie scolaire, orientation, Parcoursup, et puis aussi, je répondrai aussi sur la réponse qui m'a été faite concernant être assigné à ses origines. Donc, pour les sorties scolaires, je l'avais dit dans un exposé précédent, effectivement, les sorties scolaires, de toute façon, ça dépend des pratiques en établissement, mais elles doivent être, cadrées. Et seules, je le rappelle tout à l'heure, je le rappelle encore une fois, l'outil, c'est la loi. Donc, constituer une charte une charte qui stipule très clairement que la sortie scolaire doit être encadrée, c'est très important. C'est-à-dire, par exemple, vous avez parlé des élèves qui étaient polyexclus et qu'on mettait de côté. Et c'est dans certains établissements, c'est le cas. C'est-à-dire que qui va regarder ce qui se passe dans l'établissement de façon fine. Donc si c'est pas le chef d'établissement qui s'assure de cela, eh bien on passe à côté. D'où le rôle éminent, j'allais dire vraiment très important, des personnes de direction, pour garantir en tout cas cela. Ensuite, au niveau de l'orientation, vous avez parfaitement raison, puisque là on passe quand même, petite référence, des héritiers aux initiés. Effectivement, les initiés savent très bien, maîtrisent très bien l'enjeu de l'orientation, et effectivement, les enfants de classe favorisée trouvent leur compte. Mais là, il y a toute la question de l'accompagnement et de l'influence, effectivement, des enseignants qui influencent de façon... Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient formés sur ces questions-là. Alors, on est de plus en plus dans ça, puisque vous savez qu'on a fermé beaucoup de CIO, et qu'on donne maintenant les missions aux enseignants. Encore faut-il que les enseignants soient vraiment formés pour accompagner ces familles, oui, et soient pas dans l'orientation par défaut, et notamment par défaut en lycée professionnel. Je puis être un lycée professionnel, donc je sais ce que c'est d'avoir évidemment des élèves qui sont ici par défaut et qui finalement, et on remarque évidemment, comme vous l'avez dit, l'ethnicisation et puis de certains lycées professionnels où on retrouve effectivement des élèves d'origine étrangère, particulièrement dans certaines filières. Pour Parcoursup, il y a deux choses. Parcoursup, il n'y a pas de biais géographique. Par contre, ça valide une certaine discrimination dans le sens où l'entrée pour Parcoursup, c'est essentiellement les résultats scolaires. Et donc les résultats scolaires, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, il y a un lien entre résultats scolaires et parfois origine sociale. Mais par contre, il faut savoir, il y a des commissions en établissement sur une liste d'élèves qui choisissent les élèves. Et donc d'où peut-être le fait que des élèves ils choisissent un secteur géographique. Et c'est ce qui expliquerait cela. Mais il n'y a pas de okay. Le logiciel n'est pas paramétré pour cela.
Voilà. On reviendra peut-être simplement sur ça avec la conférence de clôture de Jacques Toubon, puisque cette question de Parcoursup, sauf erreur de ma part, est un des dossiers dont le défenseur des droits s'est saisi. Un dernier mot, Laurence, et puis nous clôturons.
Court, mais l'histoire de « il n'y a pas de problème », ça dépend des oreilles qu'on a. Et en fait, quand on a les oreilles qui entendent ce qui remonte, il y a énormément de choses, mais il y a une sorte de, pour faire un mauvais jeu de mots, de processus de blanchiment en fait, de cette question-là, où tout à coup, c'est une élève qui sort de cours parce que la prof a dit les Arabes dehors et qu'elle elle trouve que ça à faire, eh bien, ce qui va être retenu, c'est qu'elle est sortie de cours alors qu'elle n'avait pas à sortir de cours. Donc,
Merci beaucoup. Bravo à tous. Merci à Jacques Toubon, défenseur des droits, de bien avoir voulu faire la clôture de ce colloque. Et merci des soutiens importants du défenseur des droits à la tenue de ce colloque. J'en profite pendant que vous installez pour dire qu'on se félicite, vous vous rappelez, l'ouverture de la conférence, et Madame Kupiec, c'est l'occasion aussi de se retendre la perche. On se félicite sur le fait que la présidente de l'université a souhaité et a soutenu effectivement la production de recherche sur cette question-là. Du coup, nous reviendrons effectivement avec cette question, avec ce dossier, à partir de l'excellent travail qui a été fait par les étudiants du M2 Pro Mairie et j'espère qu'il y a de l'avenir. Merci beaucoup.